Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un avenir pour la Belgique, un avenir pour le pays.
Les solutions libérales aujourd'hui qu'on applique en Europe et en Wallonie, elles ne marchent pas.
Je suis intimement convaincu qu'on vit une époque où les partis politiques traditionnels, tels qu'ils se sont conçus depuis parfois plus d'un siècle, sont complètement dépassés.
Cet été, j'ai décidé de revenir sur une question a priori toute simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre les partis politiques francophones ? Pourquoi PS, MR, DEFI, PTB, Les Engagés et Écolo constituent des formations différentes plutôt qu'un seul et même parti ?
Moi, je veux bien dialoguer avec tout le monde, mais avec des gens qui sont ouverts.
Au bout d'un moment, ça crée des tensions qui, au-delà d'être politiques, deviennent personnelles et qui n'aident pas à la recherche d'une solution.
Pour le savoir, je n'ai pas été voir des politologues, mais deux philosophes. Ils n'ont donc pas analysé les décisions que les partis prennent, décortiqué leurs électeurs, les intérêts qu'ils défendent. Ils ont cherché la réponse à travers les idées dont ces partis se réclament. Et si la différence entre les partis politiques était une question de principe ? Dans ce quatrième épisode, place à une pensée politique relativement neuve sur le marché politique. L'écologie. Aujourd'hui, beaucoup s'en réclament. Mais comme courant politique, c'est bien le parti écolo qui a l'écologie politique comme référence majeure. En fait, tout a l'air simple. Écolo fait de l'écologie politique et l'écologie politique se préoccupe de l'environnement. Ben oui, c'est simple.
C'est simple seulement en première vue parce que ce qui se cache derrière l'écologie politique, ça peut être des choses extrêmement différentes.
Philippe Van Parijs est philosophe. Il donne actuellement un cours de pensée politique à l'UC Louvain.
Habituellement, l'écologie politique est contrastée avec ce qui est peu dénoncé comme n'étant que du simple environnementalisme, une préoccupation de l'environnement en disant, bon, il y a les petits oiseaux, il y a les arbres, etc., qu'il ne faut pas négliger. Et donc, il y a, dans la mesure où des partis comme les Verts allemands, les écolos en Belgique ou les Grunes en Belgique veulent constituer des mouvements, des partis politiques de long terme, ben, il faut parvenir à dire que bon, l'écologie politique, c'est plus que simplement la prise de conscience du défi environnemental.
Donc, l'écologie politique, c'est plus que le souci de l'environnement. Oui, mais donc, c'est quoi ?
C'est un mouvement beaucoup plus récent. Je pense que la date vraiment centrale, ça a été la publication du rapport du Club de Rome, le fameux rapport Meadows en 72, oui, absolument.
Jean-Yves Prancher est philosophe. Il donne un cours de théorie politique à l'ULB.
Les prédictions de ce rapport, dont on s'est beaucoup moqué à l'époque, les néolibéraux ont expliqué que ce rapport n'avait aucun sens, qu'il n'était basé que sur des billes, etc. Bon, ces prédictions n'ont pas cessé de se réaliser et finalement, on est confronté au fait qu'il aurait fallu prendre ce rapport au sérieux et il n'a pas été pris au sérieux. Voilà. Dans l'écologie politique, il y a finalement l'idéal de la démocratie sociale, mais qui est reformulé à partir de la question que faire si nos capacités de production et de productivité ne sont pas infinies parce que nous vivons dans un monde fini et que l'extractivisme va buter sur ses limites.
Bon d'accord, 1972, le rapport Meadows, la croissance infinie dans un monde fini, le productivisme remis en cause, l'entrée dans l'anthropocène, c'est le fait nouveau qui entre en politique grâce à l'écologie. Mais bon, ça pourrait aussi figurer au menu du communisme, du socialisme ou du libéralisme qui pourrait s'adapter. Qu'est-ce qui fait la singularité, donc, de l'écologie politique ? Eh bien, tout est peut-être lié à une histoire de sphère. Oui, de sphère. Bon, il faut un peu s'accrocher.
On peut donner la texture, à mon avis, la plus solide à cette idée de quelque chose, d'une doctrine qui est irréductible tant au socialisme qu'au libéralisme. C'est ce qu'on peut trouver dans l'œuvre d'Ivan Illich ou d'André Gorz.
Philippe Van Parijs, philosophe, UCL.
Donc, Illich, par exemple, a écrit ce livre, l'ensemble de ses livres va un peu dans la même direction, mais un de ses livres est intitulé « Deschooling Society », une société sans école, où l'idée est que l'éducation ne doit être le monopole ni du marché, ni de la bureaucratie, ni de l'État. Donc, il y a comme une troisième sphère. Mais c'est quelque chose qu'André Gorz a alors systématisé avec l'idée d'une sphère autonome, en disant il importe de ne pas laisser coloniser, c'est une expression qu'il utilise, pas laisser coloniser l'ensemble de notre vie, y compris de notre vie productive, de notre activité économique, par le marché ou par l'État.
Ok, vous avez bien compris cette troisième sphère, celle des communs, des communautés, ni marché, ni État. Bon, ça reste un peu vague, non ? Sphère autonome.
Une politique typique allant dans ce sens-là, c'est une politique de mobilité qui essaye de transformer toutes les rues résidentielles en des espaces qui sont avant tout des espaces où les enfants peuvent jouer.
Philippe Van Parijs.
Et puis, ça peut être un espace où des voitures, s'il en faut, peuvent stationner, des espaces par conséquent où les voitures peuvent rouler pour aller stationner, mais en respectant cette priorité. Et dès le moment où il y a cette priorité, les enfants de chacun deviennent les enfants de tous, et les relations entre les personnes qui habitent la rue deviennent différentes, et des tas de choses peuvent se créer. On peut améliorer bien des choses du point de vue de la lutte contre la pauvreté par la recréation ou la création, le développement de ces communautés locales, plutôt que par des mesures bureaucratiques ou par un recours dit plus efficace au marché. Ça, c'est un exemple donc de politique urbaine, donc ça touche à des politiques de mobilité qui sont bien sûr des chevaux de bataille du mouvement écologiste à travers le monde, mais qui montrent comment on peut renforcer cette troisième dimension, ces dimensions de la sphère autonome, ces dimensions des communautés, en refusant une colonisation, que ce soit par le marché ou par la bureaucratie, par l'État.
Cette voie serait donc celle de la défense des communs, l'eau, le sol, le climat, les espaces où les enfants peuvent jouer. Et pour ça, il faudrait trouver une voie qui ne passe ni par le tout à l'État ou le tout au privé. Bon, on avance. Mais en même temps, l'idée de commun, ce n'est pas une idée propre à l'écologie politique. On la retrouve au sein de certaines branches du socialisme. C'est une de ces idées, d'ailleurs, qui a poussé la Belgique et ailleurs à la création de coopératives et de mutuelles. Cette idée qu'on pouvait créer une société qui ne soit ni régulée par les intérêts privés ni par les intérêts de l'État. C'est ce que défend Jean-Yves Pranchère, pour qui l'écologie politique radicalise en fait une vieille idée abandonnée par les socialistes.
L'écologie, elle retrouve d'une certaine façon cette inspiration, hein. Elle retrouve toute la dimension communaliste du socialisme qui avait été perdue dans un certain nombre de pays, mais elle la retrouve en l'aiguisant à la lumière de la question écologique. C'est pas tellement l'idée de la troisième sphère, puisque l'idée qu'il y a des biens non marchands, qu'il y a des communs qui doivent faire l'objet d'une gestion commune, cette idée, finalement, elle a toujours hanté le socialisme. Mais ce qui caractérise l'écologie, c'est de considérer que la question écologique rend l'existence de cette troisième sphère absolument impérative.
Bien, on avance donc. L'écologie politique est cette école de pensée née au début des années 70 avec le rapport Meadows sur les limites de la croissance et qui postule qu'il faut défendre les communs en évitant le tout à l'État et le tout au privé. Du coup, le principal défi de l'écologie politique aujourd'hui, c'est...
C'est l'entrée dans l'anthropocène. L'entrée dans l'anthropocène, c'est un fait général. Donc, toutes les écoles politiques vont devoir faire face à cela. Et la difficulté de l'écologie politique va être de savoir si elle se maintient, de ce point de vue-là, comme une pensée politique à part, si elle a une spécificité, ou si, finalement, elle doit, par exemple, fusionner avec le socialisme dans un écosocialisme ou pas. Voilà.
Bon, bien. Même question. Quel défi pour l'écologie politique ? À Philippe Van Parijs.
Le défi de l'écologie politique consiste à bien voir que pour coordonner des économies complexes au niveau national et encore plus au niveau transnational, on a besoin d'autre chose que ces communautés qui inévitablement sont, sur la plupart des questions, des communautés locales. Il peut y avoir sur certains points, comme l'illustre Wikipédia, des communautés mondiales, mais... Pour coordonner les activités économiques au niveau national et mondial, on a besoin du marché et on a besoin de l'État. Et donc, là aussi, il y aura des compromis constants à faire pour faire place à une forme de colonisation d'aspects de notre existence par le marché d'une part et par l'État d'autre part.
À écouter nos deux philosophes, ils disent là un peu la même chose. Le défi de l'écologie politique serait de reconnaître que la tentative de s'extraire du clivage marché-État par les communautés locales est limité, en tout cas pour régler les problèmes complexes et internationaux. Il faudrait alors se poser la question de savoir si l'écologie politique est une pensée à part qui peut se tenir à égale distance du socialisme et du libéralisme, alors que l'anthropocène est un problème qui concerne tous les courants politiques. Bon, eh bien je vous laisse réfléchir à ça.